Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria France, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui comme chaque jour. Plongeons dans la catéchèse d'aujourd'hui. Comme vous le savez, elle fait suite à celle d'hier. Nous sommes en train de parler de la souffrance. Voilà. Alors confions cette catéchèse à la Vierge Marie, qu'elle dispose nos cœurs à cheminer à travers ce que nous pourrons entendre aujourd'hui. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous avons terminé la catéchèse d'hier sur ce passage absolument magnifique d'Isaïe 53, le serviteur souffrant, qui est complètement illuminé par le mystère de celui qui vient prendre sur lui nos souffrances. Il vient accomplir cette parole, cette prophétie d'Isaïe 53. Et on va le voir, puisqu'on va essayer de rentrer un petit peu, par la grâce du Saint-Esprit, on va essayer de rentrer un petit peu dans le cœur du Christ. Nous avons accès aux intentions profondes du cœur de Christ. C'est magnifique. Parce qu'il le veut et qu'il nous donne la grâce de pouvoir entrer dans son cœur. Avant d'entrer dans son cœur, si je peux dire, nous voyons dans l'Évangile justement que par rapport aux souffrances, Jésus opère de multiples guérisons. Guérison physique, guérison du cœur, conversion. Et à travers la présence de Jésus et les multiples guérisons qu'il opère, ce sont non seulement des guérisons physiques, mais ce sont aussi des signes que l'ère messianique a commencé. L'ère messianique advient avec lui, il est le Messie, parce que quand le Messie doit venir, eh bien, il doit opérer toutes sortes de bienfaits. C'est l'abondance, ce sont les guérisons, des conversions, c'est la paix, c'est tout ce qui est annoncé au sujet du Messie qui doit venir. Voilà qu'en Jésus, nous voyons qu'il opère ce qui était annoncé du Messie. Et les guérisons font partie de cette manifestation que les temps messianiques sont arrivés. Non seulement les temps messianiques sont arrivés, c'est-à-dire Jésus est le Messie, mais Jésus est le Fils de Dieu. Et alors là, c'est bouleversant. Parce que imaginez deux secondes que Jésus ne soit pas le Fils de Dieu, qu'il soit uniquement le Messie, tant attendu par le peuple d'Israël. C'est super. Mais ce qu'il y a de bouleversant, c'est que Jésus ne va pas se contenter d'opérer quelques guérisons, même si elles sont nombreuses. Ce qu'il y a de bouleversant, c'est que dans le mystère de la personne de Jésus, nous sommes, nous, personnellement, avec toute notre vie, avec nos misères, nous sommes personnellement, chacun et collectivement, dans la personne du Verbe fait chair. En Jésus était tout homme. J'aime beaucoup cette phrase de je ne sais plus qui. En Jésus, ça explique le mystère de l'incarnation d'une manière ramassée, mais très lumineuse. En Jésus était tout homme. C'est-à-dire que, personnellement, chacun peut dire « moi, je suis dans le Christ ». C'est-à-dire que le Verbe s'est fait chair pour moi, pour nous les hommes et pour notre salut. Il descendit du ciel, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Et voilà que la fin immédiate de l'incarnation, c'est notre salut, notre rédemption. Pourquoi le Verbe s'est fait chair? C'est pour me sauver. Me sauver de quoi? Me sauver du péché. Et alors on voit qu'il vient prendre ma nature humaine, notre nature humaine, il ne prend pas une nature angélique, et ma nature humaine blessée, défigurée. Pécheur, ma mère m'a conçu, dit le psaume. Et voilà que c'est qu'il y a de bouleversant. Ce n'est pas que Jésus soit le Messie et qu'il fasse des guérisons. On est content pour ceux qui ont été guéris. Mais ce qu'il y a de bouleversant, c'est que cette personne qui est guérie, cette personne à côté qui n'est pas guérie, qu'il soit centurion de l'armée romaine, juif pieux, de Capharnaüm, grand prêtre, Romain, Pilate, belle-mère de Simon, vous imaginez? Bon. Chacun. Voilà que il vient pour chacun, pour sauver chacun. Mais prenant la même nature humaine que la nôtre, il vient prendre notre vie, notre misère, nos péchés, nos souffrances. Ce sont nos souffrances qu'il portait. Quel serait ce Messie qui se contenterait, youpi youpi, deux, trois formules, shabadabada, boum, je te guéris, sans prendre en lui, dans son cœur, dans son humanité sainte, dans sa divinité, prendre en lui, parce que c'est vraiment dans le mystère de la personne du Christ, vrai du vrai homme, que tout s'accomplit, eh bien, chacun de nous, notre vie, dont nos peines et nos souffrances. Voilà la grandeur du Messie. Nous prêchons un Messie crucifié. On ne prêche pas un Messie magicien, thérapeute, t'inquiète pas, et puis n'oubliez pas 50 euros là, hein, en sortant. Non, c'est pas ça. Crucifié. C'est-à-dire qui prend sur lui, en lui, qui se laisse impacter par notre péché et notre misère, qui se laisse impacter par ce que l'on traverse dans notre vie, notre itinéraire, nos personnes, ce que nous sommes profondément et ce qu'on vit. Depuis notre conception et pour toujours, tout, sans exception, a été assumé dans le Verbe fait chair. Voilà. Le Christ m'a aimé, il s'est livré pour moi. Oui, voici le Messie crucifié que nous prêchons, parce que, comme dit la petite Thérèse, pour il me faut un Dieu capable de souffrir. Elle le dit dans un poème, je crois que c'est « Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles ». La preuve que tu m'aimes, Seigneur, c'est que tu as souffert pour moi. C'est que tu n'as pas été indifférent à ma souffrance, à ma misère. Tu n'es pas resté tout là-haut, dans ta hauteur, sans descendre dans les abîmes de ma misère. Il s'est anéanti lui-même, prenant la condition d'esclave, devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur la croix. Voilà, voilà notre Dieu, voilà notre Messie crucifié, celui que nous prêchons. Sagesse de Dieu, puissance de Dieu. Et si vous avez bien suivi la catéchèse sur le mystère de la croix glorieuse, vous avez désormais compris que dans la croix, il y a déjà la victoire. La gloire est dans la croix. Ce n'est pas simplement la gloire qui vient après la croix, dans la résurrection. Jésus crucifié est victorieux. Bon. Alors, quand Jésus arrive, ben, nous tous qui avons des problèmes, on va vers lui, qu'est-ce que vous voulez? Donc, on va demander la guérison, on va demander les conseils, on va dire, tiens, moi, je connais ma belle-mère, si tu peux passer chez moi, si tu peux lui dire un petit truc, s'il te plaît, parce que... Et puis, des petits soucis physiques, psychiques, spirituels. Et puis, il y a même des gens qui sont infestés par des démons. Seigneur, fais quelque chose. Premier rapport avec Dieu, c'est qu'on est hyper intéressé. Parce que s'il a quelques pouvoirs, s'il est un petit peu bon, s'il est un petit peu puissant, et si ça peut nous aider, vous comprenez, pas mal, hein? Alors, il voulait... le faire roi, après la multiplication des pains. Vous me cherchez parce que vous avez mangé à satiété. Ah, travaillez pour la nourriture qui se garde pour la vie éternelle. Mais que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle, pour croire, pour les œuvres de Dieu? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez, justement. Alors, quand le Seigneur vient, il attend de sa créature la réponse de la foi. C'est bouleversant de voir que dès le prologue de Saint Jean, lorsque Saint Jean nous parle du mystère du Verbe fait chair, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Tout de suite, il y a ce mystère d'iniquité, il y a ce mystère de résistance. Le Seigneur, le Fils de Dieu, rien que ça, quand même, deuxième personne de la Sainte Trinité, il vient. Dieu merci à Marie. Dieu merci à Saint Joseph. Dieu merci à quelques petits bergers, à quelques petits mages, à les anges qui se réjouissent. Ah, la création tout entière, le soleil danse, la lune, les étoiles, toute la création se met à... Ouh, enfin, ça y est, ça repart dans le bon ordre parce que le Verbe se fait chair. Et il a demeuré parmi nous, mais il est venu chez les siens et il y en a qui ne veulent pas l'accueillir. Il y a donc dans le mystère de Jésus, immédiatement, dès le moment de l'incarnation, cette souffrance. C'est la première souffrance du Fils de Dieu, c'est « Mais pourquoi vous m'accueillez pas ?» Il y a comme cette, oui, cette souffrance, cet étonnement. Je viens te donner, je viens te guérir, je viens te réconcilier avec le Père, je viens te donner tous les bienfaits que tu cherches au fond de toi, mais tu ne veux pas. Chacun de nous, personnellement, et puis il y a le peuple d'Israël, rebelle, peuple à la nuque raide. C'est l'endurcissement du cœur, le cœur dur, le cœur endurci. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cœur endurci? C'est qu'aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le cœur endurci, c'est l'orgueilleux qui marche avec ses petites lumières, sa raison, pas son intelligence, sa raison, c'est pas pareil, son raisonnement. Ses petits projets, sa petite vie, quoi. C'est lui le maître, c'est lui le roi, c'est lui qui règne sur ses petits territoires. Et comme il a construit ses petites tours de Babel pour rejoindre ses idoles à lui-même, et qu'il a organisé sa petite vie à sa mesure, à sa hauteur, à sa longueur à lui, à sa profondeur, quand il y a Jésus qui vient, et qui lui fait comprendre au-dedans de lui, tu sais, t'es pas fait pour avoir ta petite vie humaine bien tranquille selon ta mesure à toi, hein? Non, non. Ça s'appelle l'esclavage. Ça s'appelle la convoitise. Ça s'appelle les trois convoitises, on parle Saint Jean. Ça s'appelle ta petite vie sous l'influence du prince de ce monde. Alors il y a un combat spirituel énorme. Entre celui qui est doux et humble, celui qui vient révéler les mystères du royaume. Et alors on voit les tout petits, les humbles. Ah ben ils se jettent dans les bras de Jésus. Ils accueillent ce que Jésus dit, ce que Jésus fait. Ils comprennent pas tout, ils n'ont pas fait 50 théologies. Ce sont pas des docteurs. Et puis, mais ils y vont, ils se laissent attirer. Ils croient. Et même dans le peuple d'Israël, il y a des païens qui posent des actes de foi. Il y a des Syro-Phéniciennes, il y a un centurion de l'armée romaine. Mais en Israël, j'ai pas vu une telle foi, dira Jésus. Alors, je vais vous lire un petit passage très important pour comprendre que il y a ce mystère de la croix entre la volonté de Dieu qui s'accomplit en Jésus, on pourrait dire que c'est une barre de la croix, et l'autre barre, c'est la réponse de la volonté humaine, la réponse de l'homme, la volonté rebelle, qui ne veut pas que le Seigneur règne sur elle. Alors en ces temps, Jésus prit la parole et dit: « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir, tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau. Et moi, je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Alors on voit le Seigneur qui se laisse approcher par tous ceux et celles qui viennent lui raconter leurs problèmes, leurs souffrances. Et venez à moi, pas de problème, moi je vous accueille. Je suis venu pour vous accueillir. Je suis venu aussi pour que vous m'accueilliez, parce que celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé, et celui qui ne m'accueille pas n'accueille pas celui qui m'envoie. Alors, vous avez été chargés, dit le grec, vous tous les ayant été chargés. Ouais, on a été chargés. On est chargés. Ben, venez à moi. C'est magnifique parce que, je vous le disais hier, nous ne sommes pas tout seuls, vous voyez. Lorsque nous souffrons, nous avons Jésus qui est là, qui nous accueille, et qui accueille notre souffrance, qui accueille ce qu'on lui dit, ce qu'on lui partage. C'est très important de faire ça, de ne pas rester tout seul, de ne pas courir, de multiplier les intermédiaires, mais plutôt d'aller vers le seul, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus, vrai Dieu, vrai homme, et d'aller à Jésus, d'aller à l'humanité sainte de Jésus. Dire voilà, moi je Jésus là, c'est difficile pour moi. De lui parler, de lui remettre. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau. Il sait, lui, Jésus, que on revient de loin. Alors nous, on pense qu'on revient de nos blessures d'enfance, on pense qu'on revient de papa et maman qui n'ont pas été parfaits, on pense que c'est ça dont on revient. En fait, on revient de plus loin. On revient de l'amour du Père. Et c'est cette origine et cet amour du Père que le Seigneur Jésus veut nous réoffrir. Il nous dit, tu sais, c'est plus que ton père, ta mère, plus que tes blessures d'enfance, plus que tes souffrances. Il y a quelque chose qu'il faut que tu retrouves. Ah bon? C'est quoi? Eh bien, il faut que tu te charges de mon joug. Ben, j'en ai déjà les joues, c'est bon, hein. D'ailleurs, je te les donne, c'est bon. Ouais, c'est première étape. Première étape, comme dit Saint-Pierre, déchargez-vous sur lui de tout souci. Bon, faut pas que Jésus soit une poubelle non plus, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et vous comprenez ce qu'il dit, d'ailleurs. Mais c'est la première étape. Je vous soulagerai parce que le fait de donner, de ne pas être plus être tout seul, de confier sa peine, de parler à Jésus, ça fait déjà un lien. C'est un lien qui soulage. Parce que Jésus n'est pas que Dieu. Il est vrai Dieu et vrai homme. C'est la merveille. Alors, une fois qu'on est soulagé d'avoir déversé, partagé ses souffrances à Jésus, il ne faut pas louper la deuxième étape. C'est de prendre le joug de Jésus. Le joug, vous savez, c'est ce que les animaux prennent pour porter l'attelage. Alors, on va se reprendre un truc lourd à porter. Ben non, justement. Mon joug est aisé, mon fardeau léger. Et c'est le joug de Jésus, c'est le fardeau de Jésus. C'est quoi ce joug de Jésus? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il porte sur ses épaules? Ah, il porte le poids de la souffrance du monde. Oui, il est l'agneau de Dieu qui porte et enlève le péché du monde. Justement, qu'est-ce qui lui permet de porter le poids du péché? C'est quoi le secret, Jésus? Alors là, il y a un grand secret. Attention, si vous êtes tout petit, vous allez comprendre. Si vous êtes sage et savant, vous n'allez rien comprendre. Si vous êtes dans votre cœur brisé et broyé, alors vous allez comprendre. Vous allez comprendre que dans le cœur de Jésus, il y a un joug facile et léger. C'est quoi? C'est l'amour du Père. Le zèle de ta maison me dévore. L'amour du Père pour son Fils. L'amour du Fils pour le Père. Alors là, ça. C'est le grand secret. Qu'est-ce qui nous permet de porter le poids du jour avec nos contraintes, nos contrariétés, nos souffrances, nos peines? C'est l'amour. Vous le savez déjà. On se le redit. C'est l'amour. n'y a que l'amour qui donne de la force. Il n'y a que l'amour, l'amour qui repose. Il n'y a que l'amour qui illumine, c'est-à-dire qui va donner le sens, qui va éclairer. Il n'y a que l'amour. Alors c'est où cet amour qui me permettrait de traverser mon chemin de croix? Eh bien, il n'y a qu'un seul lieu où il y a tout ce que nous voulons, tout le temps, toujours disponible. C'est le cœur du Christ. C'est là. Il n'y a pas de plus grand amour que de déposer sa vie entre les mains du Père pour ceux qu'on aime. Jésus dépose sa vie entre les mains du Père, il la reçoit de nouveau. C'est le commandement qu'il a reçu de son Père. Pourquoi il se reçoit du Père? Et il va vers le Père. Et dans ce mouvement, il y a un grand repos. C'est un mouvement d'amour, amour reçu, amour donné. Et dans cette circulation, dans cette spiration de l'Esprit Saint, il y a un grand repos. Voilà la clé, frères et sœurs. Vous trouverez soulagement pour vos âmes. Le soulagement ne vient pas de l'extérieur. Si, bien sûr, quand on a mal aux pieds, si on met une pommade et tout ça, ça soulage. Bon. Mais bien sûr, pour le cœur qui souffre, le soulagement vient de l'intérieur. De quel intérieur? Du cœur, de l'intérieur du cœur du Christ. Alors, on a accès à l'intérieur du cœur du Christ? Ben oui. C'est merveilleux. C'est un grand cadeau. Jésus nous donne son cœur. Jésus nous donne son cœur. C'est ça la grande réponse. Alors, je vous lis un petit passage que Jésus dit à Luisa Picaretta dans le tome 12 du livre du ciel de 12 avril 1917. Ma fille bien-aimée, ma chère fille, repose-toi en moi. Ne garde pas tes souffrances pour toi seule, mais joins-les à ma croix comme escorte et soulagement à mes douleurs. Mes souffrances se joindront aux tiennes et te soutiendront. Nos souffrances brûleront dans un même feu. Je verrai tes souffrances comme si elles étaient miennes. Je leur donnerai les mêmes effets et la même valeur que les miennes quand j'étais sur la croix. Elles rempliront le même office devant mon Père pour les âmes. Mieux encore. Attention, accrochez-vous. Vous êtes toujours dans votre cœur, vous êtes toujours petit et humble, c'est bon? Viens toi-même sur la croix. Viens toi-même sur la croix, c'est bon? On y va? Comme nous y serons heureux, même en souffrant. En fait, ce n'est pas la souffrance qui rend la créature malheureuse. Écoutons ça bien, frères et sœurs, c'est très important. Ce n'est pas la souffrance qui nous rend malheureux. Au contraire, souffrir la rend victorieuse, glorieuse, riche et belle. Elle devient malheureuse quand, écoutez bien, quelque chose manque à son amour. Unie à moi sur la croix, tu seras satisfaite en tout par l'amour. Tes souffrances seront amour. Ta vie sera amour. Et ainsi, tu seras heureuse. Frères et sœurs, est-ce que Jésus est malheureux dans sa passion? Non. Est-ce que Marie est malheureuse? Non. Ah bon? Est-ce qu'ils souffrent? Ah bah oui. Est-ce qu'ils sont crucifiés et broyés? Oui. Mais est-ce qu'il y a dans leur cœur un espace où il y a la paix, Le repos, oui. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'amour. Parce qu'en Jésus, bien sûr, il ne manque rien à son amour dans ses souffrances. Et c'est en cela que nous avons peut-être un chemin à parcourir, frères et sœurs. C'est vraiment de faire, d'être habité par l'amour, de telle manière que lorsque nous souffrons, il ne nous manque rien dans le sens qu'il n'y ait pas d'amertume, qu'il n'y ait pas de rancune, qu'il n'y ait pas de cœur dur, qu'il n'y ait pas de pus dans ses blessures, vous voyez? Qu'il n'y ait pas de tristesse, qu'il n'y ait pas de repli sur nous-mêmes, qu'il n'y ait pas quelque chose qui nous plombe, vous voyez? Ça, c'est pas en Jésus encore. On est en chemin, on se fait miséricorde, on apprend ces choses. Mais vous voyez, Jésus n'est pas plombé dans son cœur. Il est victorieux. Victorieux. Pourquoi? Parce qu'il est amour. Il nous aime d'un amour victorieux. Alors, il vit la souffrance dans l'amour. La souffrance dans le Christ, ce sont des souffrances d'amour. Mais ce sont, attention, c'est un amour victorieux. N'oublions jamais ça. Parce que sinon, on va se traîner, on va dire, ben voilà, celui le chrétien qui suit Jésus, il se traîne. Et voilà, je suis disciple de Jésus, donc je me traîne. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas se traîner. Venez à ma suite. Qu'il prenne sa croix, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Il n'y a pas qu'il se traîne. Non. Qu'il me suive. Suivre Jésus, c'est partager, avoir part à tout son mystère et à avoir part à ses souffrances et à sa résurrection. C'est l'expérience des saints, frères et sœurs. Et là, on accoste à une autre étape encore dans notre vie. C'est que tant que nous vivons pour nous-mêmes, ben on aura un peu de mal, vous comprenez? Il y aura toujours de la rébellion, toujours de la révolte. Si nous apprenons à ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour lui qui est mort et ressuscité pour nous, si nous comprenons que notre vie n'est plus à nous-mêmes, si nous avons donné notre vie à Jésus, elle n'est plus à nous. Si nous avons donné nos peines à Jésus, elles ne sont plus à nous. Si nous avons offert nos souffrances à Jésus, elles ne sont plus à nous. Si nous avons offert notre corps au Seigneur, notre corps ne nous appartient pas. Nous vous appartenez à Dieu, dit saint Paul aux Corinthiens. Le corps est pour le Seigneur est pour le corps. Vous ne savez pas que vous ne vous appartenez plus? Alors pourquoi vous vivez en propriétaire? Ce sont mes souffrances, ce sont mes joies, ce sont mes amis, ce sont mes machins, mes projets, moi. Au bout d'un moment, soit tu vis pour toi, soit tu vis pour le Christ. Et il y a incompatibilité entre les deux. Celui qui m'aime, ben il doit lâcher, il doit abandonner ce qui lui appartient. Et ces misères aussi, ces misères aussi. Mes misères à moi, ce sont mes richesses. Tu veux bien me les donner? Ah ouais, mais moi je vis avec mes misères et puis je me présente avec mes misères et puis je me dis regardez-moi comme je suis misérable et regardez-moi comme je suis pécheur, comme je suis lamentable, comme je suis une lavette. Regardez-moi, regardez-moi, on se présente comme ça, avec nos guenilles. Non mais, t'as toujours pas donné tes misères au Seigneur. Si tu as donné tes misères, ne les reprends pas. Elles ne sont plus à toi. Tes tristesses, tes peines, tes souffrances. Alors bien sûr, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est à vivre tous les jours. C'est-à-dire qu'on reprend un peu quand même, il faut bien avouer, qu'on donne tout le matin, quand on se réveille, au Seigneur, prends tout, je te donne tout. Et puis, on est grossiste le matin et détaillant dans la journée, vous voyez, on reprend tout dans le détail, un par un. Pourtant, on a tout donné le matin. Alors, lorsque nous nous apercevons que nous reprenons ce qu'on a donné, eh ben, il faut redonner. Venez à moi, vous tous, les ayant été chargés. Je vous procurerai le repos. Soulagé, vous serez soulagé. Revenez à moi. Allez hop. Là, t'es parti avec toi-même. Là, t'es reparti tout seul dans tes... dans ton imaginaire, dans ton petit vélo, dans ton... Hein? Reviens. Et puis ne t'arrête pas en chemin. Reçois à nouveau le joug de Jésus, c'est-à-dire le poids de l'amour du Père. Mon poids, c'est mon amour, disait saint Augustin. Kavod, le poids de la gloire en hébreu. C'est-à-dire, quel est ton poids? Alors nous, on répond 80 kilos, mais ton poids d'amour. Vous savez, dans le livre d'Ézéchiel, à un moment donné, il y a quelqu'un comme ça qui est jugé, qui est pesé, hein, et qui dit, ah, t'es trop léger. C'est-à-dire, ton poids d'amour, là, je te balance ça, je te mets sur une balance, et puis, en fait, tu as vécu ta vie pour toi-même. Donc, c'est très, très léger. Ouais. Tu as vécu pour avoir un petit peu de gloire, un petit peu de reconnaissance, pour... aller absolument dans tes projets qui n'avaient rien à voir avec le Seigneur, avec sa volonté. Tu t'es... Ouais. Je te pèse. Le Seigneur nous pèse. C'est... Au soir de notre vie, nous serons pesés. Il y aura la balance. Hein. Nos œuvres. Notre foi, notre amour. Attention de ne pas être trop léger. Qu'est-ce qui est léger? C'est quand on vit notre vie pour nous-mêmes, avec nous-mêmes, en vue de nous-mêmes. Ça, c'est d'une très léger. C'est-à-dire... Ça vaut rien. Ça vaut rien. Ce qui a du poids dans notre vie, c'est l'amour du Christ en nous, à travers nous. Et avoir part à sa vie, à ses souffrances, à sa résurrection. Voilà ce qui donne du poids à notre vie. Sinon, on s'ennuie, non? Vous trouvez pas? Alors c'est sûr que si on donne notre vie à Jésus, si on se met à apprendre à aimer comme lui, à souffrir avec lui, alors là on va jamais s'ennuyer, c'est sûr. Mais il ne faut pas passer à côté de notre vocation profonde, qui est une vocation à l'amour. Et on le voit, frères et sœurs, dès l'Église naissante, si vous voulez. Bien sûr, avant la Pentecôte, c'était, il balbutiait. Il faut la force de l'Esprit Saint, la puissance de la Pentecôte pour configurer les nouveaux chrétiens, les disciples, les apôtres, ceux qui étaient là, pour les configurer petit à petit à Jésus. Et que petit à petit, la vie de Jésus gagne, prend. L'homme extérieur s'en va en ruine, mais l'homme intérieur, l'homme nouveau, voilà, ça gagne, ça pousse. La greffe est en train de prendre. Alors on entendra Saint Paul, extraordinaire Saint Paul. Alors nous, il nous dit, je suis crucifié avec le Christ. C'est bien qu'il dise ça. Il dit pas, je suis crucifié. Il dit, je suis crucifié avec le Christ. Ça change tout. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Voilà. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi. C'est-à-dire dans ce lien. Je crois que le Christ est présent. Je crois que le Christ est mon sauveur. Je crois que le Christ m'aime. Je crois qu'il est présent en moi. Je crois qu'il vit en moi, à travers moi. Il faut être orgueilleux, présomptueux pour dire, mais quand même, vous êtes qui, vous, pour dire que le Christ vit en vous? Vous avez vu votre tête, vous avez vu là? Vous n'êtes pas parfait, je vous rappelle. Ah. Ben oui. De même, en effet, que les souffrances du Christ abondent pour nous. Ainsi, par le Christ, abonde aussi notre consolation. Sommes-nous dans la tribulation? C'est pour votre consolation et salut. Nous sommes consolés, sommes-nous consolés? C'est pour votre consolation qui vous donne de supporter avec constance les mêmes souffrances que nous endurons nous aussi. Et notre espoir à votre égard est ferme. De point, nous savons que partageant nos souffrances, vous partagerez aussi notre consolation. Encore une fois, soit on vit notre vie pour nous-mêmes, soit ce qu'on vit avec le Christ, dans le Christ, c'est pour les autres, parce que tout le monde souffre, mais tout le monde ne connaît pas la consolation. Tout le monde ne connaît pas le repos en Jésus, tout le monde ne connaît pas le salut en Jésus. Alors nos tribulations sont l'occasion, nos tribulations offertes, vécues en Jésus bien sûr, sont l'occasion d'une fécondité immense. C'est-à-dire que des personnes rencontrent Jésus grâce à l'offrande de notre vie, l'offrande de nos souffrances. Enfants, nous sommes enfants et donc héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. Oui, soyons très vigilants au jugement, frères et sœurs. On juge beaucoup selon les apparences et, comme dit saint Jacques, ne portez pas de jugement prématuré. Parce que c'est le Seigneur qui est en train de faire son œuvre, et on sera stupéfait au ciel de voir des gens qui ont beaucoup souffert et qui ont vécu dans le secret, dans le silence, dans l'offrande de leur vie, et on verra les stigmates glorieux de ce qu'ils auront porté sur la terre. Oui. Ayons ce don de crainte, dans le sens, je m'abstiens de porter un jugement trop court parce que, attention, Dieu est à l'œuvre. Et puis, l'œuvre de Dieu est magnifique. Et à travers même la maladie, à travers plein de choses qui nous défigurent le corps, l'âme, on sera étonné au ciel de voir à quel point les crucifiés vivants que nous sommes et que nous côtoyons, eh bien, on sera étonné de voir, comme Jésus ressuscité, eh ben, les stigmates glorieux de ce qu'ils auront porté sur la terre. C'est comme ce que saint Paul nous dit dans 2 Corinthiens 4, 10. Ce trésor, nous le portons dans les vases d'argile, pour que cet excès de puissance soit de Dieu et ne vienne pas de nous. C'est magnifique. Et Philippiens aussi, je cherche. C'est pas sous mes yeux, mais dans Philippiens aussi. Un passage magnifique, justement, sur notre corps qui, quand même, souffre beaucoup. Eh bien, il sera dans un état glorieux. Comment ça se fait? C'est que, encore une fois, et je terminerai par là, le Seigneur s'occupe de nous par l'incarnation, par sa croix, par sa résurrection, par le don de son esprit. Par sa présence en nous et au milieu de nous, il est en train de nous préparer une demeure de gloire. Et nous verrons, frères et sœurs, je vous laisse avec cette espérance, ce que nous traversons ici-bas de difficile. Si nous voulons, comme on peut, essayer de vivre ça en Jésus, je vous garantis que c'est porteur d'une fécondité immense et que nous verrons au ciel les fleurs de ce que nous aurons traversé au milieu des intempéries ici-bas. Au ciel, on verra cette gloire, la gloire du crucifié qu'aura partagé ses souffrances avec nous. On aura été d'accord de traverser sur terre en partageant toute sa vie, dont ses souffrances, comme lui, il l'a traversé avec amour, dont je vous parlais tout à l'heure, et on verra l'éclosion. Déjà, nous devons croire que notre vie porte du fruit. C'est très important. Sinon, on désespère. Dès maintenant, posons cet acte de foi. Je crois, Seigneur, que lorsque je vis et traverse tout ce que je traverse avec toi, par toi, en toi, eh ben ma vie porte du fruit. Je suis fécond. C'est-à-dire que des âmes trouvent la consolation. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.